Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde.
Bienvenue sur RDWA 107.5. Vous écoutez la pensée des peuples et aujourd'hui, nous allons nous entourer d'obscurité. Harmonie du soir. Voici venir les temps où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir, le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Valse mélancolique et langoureux vertige. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Un cœur tendre qui est le néant vaste et noir. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Un cœur tendre qui est le néant vaste et noir. Du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Ton souvenir en moi, lui, comme un ostentoir. Corbeau vole la lumière. Bien avant le début du monde, quand rien n'existait encore, avant le grand déluge, avant que les animaux ne marchent sur la terre, avant que les arbres ne jaillissent du sol, avant que les oiseaux ne volent entre les branches, avant même que les poissons, les baleines et les phoques ne nagent dans la mer, avant tout cela, il y avait un vieil homme qui vivait dans une maison au bord d'une rivière, avec sa fille unique. Elle était aussi belle qu'une flèche de sapin sur un ciel de printemps au lever du soleil. Ou était-elle aussi vilaine qu'une limace de mer? Cela n'a aucune importance puisque cette histoire se déroule dans l'obscurité totale. En ce temps-là, le monde entier n'était qu'obscurité. Un noir d'encre, plus noir que noir, plus sombre qu'un million de nuits orageuses d'hiver. Rien n'a jamais atteint une telle obscurité. Nulle part depuis. C'est à cause du vieil homme qui habitait la maison au bord de la rivière que cette obscurité, d'une densité incommensurable, recouvrait le monde. Il possédait une boîte qui contenait une autre boîte qui contenait une autre boîte qui contenait une autre boîte. un nombre infini de boîtes, chacune à peine plus grande que l'autre. La dernière était si petite qu'elle ne pouvait contenir que la lumière de l'univers. Grand Corbeau, qui existait bien entendu déjà, car il a toujours existé et existera toujours, n'était pas vraiment satisfait de cet état de choses. Il n'y voyait pas clair, il se cognait souvent, il trébuchait, il heurtait les obstacles qui se dressaient sur son passage. Cela ralentissait énormément sa recherche de nourriture, compliquait sa quête des plaisirs de la chair, et contrariait ses efforts permanents pour se mêler de tout et pour changer le cours des choses. À force de s'agiter inutilement dans l'obscurité, dense et intense, Grand Corbeau arriva finalement près de la maison du vieil homme. Il entendit une voix qui chantonnait tout bas. Il la suivit et se retrouva devant le mur de la maison. Il y colla l'oreille et put distinguer ses paroles. « J'ai une boîte, dans une autre boîte, dans une autre boîte, dans une autre boîte, tant et tant de boîtes. Dans la plus petite, la lumière du monde y est enfermée. La lumière est à moi seule. Je ne la donnerai à personne, pas même à ma fille unique, car qui sait, elle pourrait être aussi laide qu'une limace de mer. Et ni elle ni moi ne souhaitons le savoir. J'ai une boîte dans une autre boîte. » Grand Corbeau décida immédiatement de voler la lumière. Mais il lui fallut beaucoup de temps pour trouver le moyen d'y parvenir. Il lui fallut tout d'abord trouver une porte pour entrer dans la maison. Il en fit le tour maintes et maintes fois. Il en tâta les parois de bois maintes et maintes fois. Mais la maison demeura une forteresse lisse et imprenable. Il lui arriva d'entendre le père ou la fille sortir de la maison pour aller chercher de l'eau. Mais ils sortaient toujours du côté opposé à celui où ils se trouvaient. Et, quand ils se précipitaient de l'autre côté, le mur était aussi lisse et fermé. Grand Corbeau finit par remonter loin vers l'amont de la rivière. Il réfléchit inlassablement au moyen de pénétrer dans la maison. Plus il réfléchissait et plus la jeune fille occupait ses pensées. Penser à elle mettait son imagination en ébullition. Elle est peut-être aussi avenante qu'une limace de mer, mais elle pourrait être aussi belle qu'une flèche de sapin sur un ciel de printemps au lever du soleil. Si seulement il y avait assez de lumière pour qu'il y en ait un. C'est en retournant ses idées dans tous les sens qu'il trouva la solution. Il attendit que la jeune fille sortît chercher de l'eau, à la rivière. Il avait appris à distinguer ses pas de celui du vieux père. Il prit la forme d'une aiguille de sapin, se jeta dans la rivière et se laissa flotter jusqu'au seau que la jeune fille plongeait dans l'eau. Même dans sa forme la plus ténue, Grand Corbeau était capable de magie. Juste assez pour que la jeune fille ressente une soif terrible et se désaltère d'une gorgée d'eau, puis d'une autre, et avala l'aiguille de sapin. C'est ainsi que Grand Corbeau parvint à se glisser dans les entrailles chaudes. Dans ces entrailles chaudes, il se nicha au creux de son ventre douillet et confortable et prit la forme d'un tout petit humain qui s'endormit pour quelque temps. Plus il dormait, plus il grandissait. La fille n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait dans son corps qui se transformait. Elle n'en dit rien à son père. Celui-ci ne se douta de rien à cause de l'obscurité. Un jour, Grand Corbeau jaillit triomphalement du ventre de la jeune fille, sous la forme d'un petit garçon. L'enfant avait une drôle d'allure. Il avait un nez long comme un bec, quelques plumes éparses et le regard perçant de Corbeau, qui lui donnait un air vif et curieux. Mais nul ne pouvait bien entendu voir tout cela. Le vieux père prit soudain conscience d'une nouvelle présence dans la maison. Il faut dire que le petit était très bruyant. Il avait la voix d'un enfant capricieux, mêlée des cris colériques d'un corbeau. Il lui arrivait parfois d'avoir une parole douce, comme le bruissement du vent, dans les rameaux d'un sapin. suivi du tintement de clochettes, si caractéristique du langage des corbeaux. Quand le petit prenait cette voix mélodieuse, le grand-père se prenait à aimer cet étrange nouveau venu. Il passait des heures à s'amuser avec lui, à lui fabriquer des jouets et à lui inventer des jeux. Grand Corbeau réussit à gagner la confiance du vieux. Il en profita pour explorer les moindres recoins de la maison, à la recherche de la lumière. Après maintes explorations, il finit par trouver une grande boîte. Certain d'y trouver la lumière, il l'ouvrit. Mais le bout de ses doigts ne put distinguer qu'une autre boîte, légèrement plus petite. Le grand-père entendit le couvercle se refermer. Il réprimanda durement le voleur en herbe et le menaça des pires punitions si jamais il osait toucher son trésor. Corbeau protesta bruyamment, puis de sa voix la plus tendre, il amadoua son grand-père. Il ne mentionna jamais la lumière, mais tous les jours, inlassablement, il supplia. Cette boîte est la seule chose qui puisse me rendre heureux. Je ne veux rien d'autre au monde. S'il te plaît, grand-père, donne-la-moi. Et comme tous les grands-pères, celui-ci finit un jour par céder. Il donna la boîte la plus grande à son petit-fils. Celui-ci laissa passer un long moment avant de repartir à la charge. « Grand-père, donne-moi l'autre boîte. »« Allez, si tu veux me rendre heureux, c'est la seule chose que je désire, grand-père. » Des cris, des menaces, puis des tendresses, et le vieil homme lui donna la deuxième boîte. Puis la troisième, puis la quatrième, puis... Quand il ne resta plus qu'un nombre infime de boîtes, une faible lueur filtra, révélant quelques formes indistinctes et des ombres infiniment ténues. De colère en cajolerie, de menace en tendresse, il ne resta plus que la dernière, la toute petite boîte. D'une voix à faire fondre les pierres, l'enfant corbeau supplia de nouveau le vieil homme. « Grand-père, laisse-moi tenir la lumière, une fois. Une seule fois, un tout petit instant, juste un instant, s'il te plaît, grand-père. » Le grand-père refusa énergiquement, mais le petit insista encore et encore. Et, de guerre lasse, le vieil homme ouvrit la dernière boîte, saisit une boule incandescente et la lança au petit. Il eut juste le temps d'apercevoir son petit-fils tant aimé, car avant même d'attraper la lumière, celui-ci avait repris sa forme de corbeau et déploya ses ailes et ouvrit le bec pour saisir la boule de lumière. Puis il prit son envol et regagna l'obscurité du monde à travers la cheminée. Le monde en fut totalement transformé. Les lignes des montagnes et des vallées se dessinèrent. La rivière étincela de reflets irisés et la vie s'anima. Très loin à l'horizon, une autre silhouette ailée prit son envol. La lumière avait atteint les yeux de l'aigle, pour la première fois lui montrant sa proie. Grand Corbeau était tout à sa joie de détenir la lumière. Et heureux de voir le monde qui l'entourait, sans craindre de heurter un obstacle. Il ne vit pas l'aigle qui fonçait sur lui. Quand celui-ci fut sur le point de le saisir dans ses serres, Grand Corbeau, pris de panique, tenta de lui échapper. Il changea brusquement de cap et laissa échapper la moitié de la lumière de son bec. Elle tomba sur un rocher et se brisa en mille morceaux. Un grand éclat et plusieurs tout petits. Les débris de lumière rebondirent jusqu'au ciel. C'est depuis que la lune et les étoiles rendent hommage à la nuit. Grand Corbeau vola jusqu'au bout du monde afin d'échapper à l'aigle. Arrivé au bord de la terre, épuisé, il laissa tomber le dernier morceau de lumière de son bec. Celui-ci flotta sur les nuages, puis s'éleva dans le ciel, derrière les montagnes de l'Est. Ses premiers rayons atteignirent la cheminée de la maison, près de la rivière. Le vieil homme pleurait la perte de la lumière et la trahison de son petit-fils. Il regarda le soleil se lever et vit pour la première fois sa fille, tranquillement assise, abasourdie par ce torrent d'événements. Elle était aussi belle qu'une flèche de sapin sur un ciel de printemps au lever du soleil. Le vieil homme sourit.
On va. travail par la nuit, le silence, la plénitude, souvent seul par habitude, assisté par l'ennui, les joues creusées par le temps, la déprime de ces soirs atténue les sentiments sur quelques mots dérisoires. J'ai vite compris l'amour, que rien ne se répare, qu'une perle ne l'était pas si elle n'était pas si rare. Quelques pensées dans le vent viendront me rattraper en me disant qu'au moindre mal, il suffirait trapper, trapper dans un mal-être vu du ciel ou vu d'ici. Il demeure indicible malgré ces quelques lettres. Ici tout m'a lassé à m'enrouger les ondes de mes spectres passés. Je ne perçois que les ombres, la confiance est un leurre comme des vitres sans teint, un peu trop racoleur comme l'amour de ces tympes. Toute lumière éteinte là où rien ne sert de voir. Du fond de ma mémoire je me rappelle de ces nuits noires, des nuits où le temps s'arrête, des chagrins à l'appel, des rêves à l'abandon. Dis-moi que la nuit est belle, des nuits à perdre la tête, à veiller jusqu'à l'aurore. Mes nuits ressemblent à l'horreur, à quoi ressemblent les tiennes. Des nuits où le temps s'arrête, des chagrins à l'appel, des rêves à l'abandon. Dis-moi que la nuit est belle, des nuits à perdre la tête, à veiller jusqu'à l'aurore. Mes nuits ressemblent à l'horreur, à quoi ressemblent les tiennes. Je me souviens de ces nuits, de la sueur sur nos chairs, comme un brin de folie qui au fil du temps s'achève. Je me souviens du jour, de la beauté du matin, les yeux à peine ouverts quand ton cœur pouvait m'atteindre. Des nuits passées à t'attendre, me disant que tu reviendras. Ces nuits passées sans toi, à étouffer dans mes draps. Des nuits noires à cogiter, à m'agiter dans l'ombre. Plus la lumière des yeux est vive, plus le cœur est sombre. Des nuits noires où tout est rouge, où tous les chiens, les loups s'agitent. Avec le temps, ça s'agit, mais tu m'aurais trouvé louche, ivre mort sur le pavé, juste au coin de la rue, à en perdre la tête, à en perdre la vue. À ces nuits, ces soirées, à ces litres versés, sincères quand ils me disent continue, tu vas percer. Toute lumière éteinte, là où rien ne sert de voir. Du fond de ma mémoire, je me rappelle de ces nuits noires. Des nuits où le temps s'arrête, des chagrins à l'appel, des rêves à l'abandon. Dis-moi que la nuit est belle, des nuits à perdre la tête, à veiller jusqu'à l'aurore. Mes nuits ressemblent à l'horreur, à quoi ressemblent les tiennes. Des nuits où le temps s'arrête, des chagrins à l'appel, des rêves à l'abandon. Dis-moi que la nuit est belle, des nuits à perdre la tête, à veiller jusqu'à l'aurore. Mes nuits ressemblent à l'horreur, à quoi ressemblent les tiennes.
Les charmes de la nuit. Quand on confie son corps aux charmes de la nuit, il semble voir apparaître, à travers la fenêtre, le visage lointain de ceux que l'on connut. Où étiez-vous? Où était-elle? Où serons-nous? Le temps qui s'abolit et renaît de lui-même ne répond même pas aux questions des passants. Ces fleurs qui s'effeuillaient, ces souffles oubliés. On atterrit bien loin sur des terres nouvelles. On les voit resplendir à l'éclair des prunelles. Dans un accent de voix, dans un geste inutile, ils mourront tous à l'heure dite, à la va-vite. Ses yeux s'éloigneront ainsi que de lanternes, que l'on voit disparaître aux routes en forêt. Ses yeux réapparaîtront, on reverra leurs cernes, on ressent leurs regards, et, quoi, ce n'est pas eux ? La vie est parcourue de fantômes futiles. De loin, on reconnaît la démarche amicale. Et de près, ce n'est plus qu'une vaine vapeur. Squelette ridicule ou burlesque brouillard. Allez-vous-en, je ne crains plus. Que le mystère enclôt dans la réalité. Apocalypse de nuit. À la fin des temps, la lune a poussé. Elle a jeté sa forme à la forêt, qui roule sur la mer. Des poils d'écume ont caressé les feuilles. Le sommeil a solidifié l'huile des baisers et caresses. L'ambre luit, le plancher retourne à l'arbre d'origine. Reste le murmure dans la nuit, possession patrimoniale de la terre.
On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, Joseph. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho? J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement. Accaparé. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore? On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho?
Les follets de Boutonnargues. Face à la tour Goyon, où fut débondé le lac du pays d'Ambert, se dresse la colline bossue de Boutonnargues. Sur les tronçons de murs et des tours de son château, ceux qui s'attardent à la lune levante voyaient paraître les lutins, de petits hommes vêtus à l'antique, tout de rouge, comme des flammes sombres, toutes dansantes et sautantes. Ces follets couraient plus vite que le vent sur les traînées des ruines. Ils grimaçaient, ils tiraient la langue. Tant qu'ils pouvaient, ils s'en donnaient. Ils menaçaient et houspillaient les gens de la campagne que leur mauvaise chance avait amenés là à heure trop tardive.
Si même il pouvait s'en saisir, il les enterrait jusqu'au cou. C'était pour leur apprendre à ne pas hanter ce qui n'appartient plus qu'au peuple de la nuit, dans la ruine et la solitude.
Merci pour votre écoute et à bientôt.